Le coin lecture. Présenté par Emmanuel Dufour.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 14e numéro du Coin Lecture, l'émission de Radio Libres en Périgord dédiée à la lecture de textes d'autrices et d'auteurs locaux et contemporains. Aujourd'hui, nous allons découvrir la plume de Rolande Moreau, autrice de romans contemporains feel-good et de thrillers psychologiques. Née en 1956 à Arras, elle est professeure et vit désormais aux Cooks et Bigaroc. Je vais maintenant vous lire quelques extraits choisis de Vanille Fraise, son roman Feel Good, publié en 2024 aux éditions Maya. Miranda. La journée avait très mal commencé, ce qui, compte tenu des circonstances, n'aurait pas dû m'étonner. Comment aurait-il pu en être autrement alors que je m'apprêtais à traverser la pire épreuve de ma vie, à enregistrer la plus cuisante défaite de ma carrière? Ce vendredi 1er septembre était précisément le jour où j'allais subir les sévères conséquences d'une calamiteuse décision, d'un renoncement auquel j'avais consenti bien malgré moi, d'une capitulation trop vite acceptée. Cette pensée me taraudait, au point de me rendre fébrile et de me priver de mon efficacité coutumière, ce qui avait le don de me mettre de fort mauvaise humeur. Au terme d'une nuit très agitée, entrecoupée de nombreuses périodes d'éveil, je m'étais levé, la tête lourde et la poitrine empressée. Incapable de me concentrer sur le rituel ordinaire de la toilette et du petit déjeuner, j'avais perdu un temps précieux dans mes préparatifs. Après avoir embrassé mon doux chéri à la hâte, j'avais quitté la maison précipitamment, effilé sans me retourner, oubliant clé et parapluie dans le vestibule. Fatale erreur. Le charmant petit crachin du Nord était au rendez-vous. Une bruine dense, opiniâtre, qui, une fois qu'elle vous a ciblé, se conjuguait au vent malin pour vous détremper. N'ayant pas trouvé de place de stationnement à proximité du bâtiment où se situait mon bureau, j'avais parcouru à pied une interminable enfilade de rues. J'étais arrivé à destination suffisamment douché pour maudire mon détourderie, maudire ce jour sinistre, maudire le sort qui conspirait contre moi. Cheveux plaqués par la pluie, mon beau sac Prada dégoulinant, le manteau de même marque gorgé d'eau et, plus préoccupant encore, mes tout nouveaux escarpins abandonnant dans leur sillage de lamentables flaques boueuses, je ressemblais davantage à un chat mouillé qu'à une chef de service digne et respectable. Ruisselante et, de surcroît, en retard, la pire défaillance de toute ma carrière. La pointe des châteaux. Ce matin-là, à l'aube, les trois randonneuses avaient été comblées. Le panorama époustouflant qui nous attendait sur la pointe des châteaux, à l'extrémité est de Grande Terre, avait tenu les promesses des guides touristiques que j'avais avidement compulsés avant le départ. Assises sur les rochers, nous avions attendu dans la pénombre que le rideau se lève pour nous révéler un spectacle magistral et, inspiré par le lyrisme débridé des brochures, j'avais aussitôt laissé mon imagination fertile le transformer en un combat épique. Je ciselais de belles formules ronflantes que je me promis à mon retour de consigner dans un carnet de voyage. Ainsi, la forteresse de roches volcaniques érodées par les vagues qui venaient s'y fracasser lors des ouragans, poussées par la violence des alizés, défiait l'Atlantique de sa silhouette sombre. Une armée de nuages, sentinelles austères, veillait jalousement sur le sommeil de l'océan, secondée par une escouade de rochers massifs dont les contours déchiquetés surgissaient de l'eau à quelques mètres de la falaise abrupte. C'était à peine si l'on distinguait de pâles reflets moirés à la surface de l'eau. Soudain, le signal avait été donné. D'abord, une pâle teinte rosée avait nimbé la mer, tandis qu'entre les nuages, une clarté diffuse réveillait progressivement le ciel, accentuant par contraste leurs masses opaques. Bientôt, un fin trait d'or était apparu à l'horizon, Et il en était surgi aussitôt un éclair fulgurant qui était venu transpercer le nuage situé immédiatement à la verticale. Dès lors, tout s'était passé très vite. Le trait d'or s'était dilaté, comme animé par une force conquérante, et avait annexé tout l'espace qui se trouvait à proximité, laissant rapidement place à un disque éblouissant, d'où s'échappaient de violents rayons orangés de plus en plus larges et de plus en plus belliqueux. La clarté et les ténèbres s'étaient livrées sous nos yeux à un combat titanesque. De toutes parts, les nuages assaillis par le globe éblouissant avaient été canonnés, mis en pièces, investis par la lumière, saturés par toute une gamme de couleurs chaudes allant du jaune le plus intense à l'orange le plus offensif. Ils avaient succombé un à un aux assauts de l'astre, s'étaient ourlés d'or puis embrasés, réverbérant à leur tour les teintes de l'aube. Seule la mer, dernier bastion de résistance, avait réussi à préserver un temps son opacité. Pourtant, elle aussi avait finalement capitulé face aux assauts d'un ennemi déterminé. Pour consacrer sa victoire, après nous avoir offert l'embrasement de l'horizon, des nuages et du ciel, le soleil avait réveillé peu à peu toutes les nuances de bleu de l'océan. Nous avions applaudi le triomphe de la lumière sur l'obscurité et, depuis le promontoire rocheux et découpé sur lequel nous étions juchés, nous avions pu embrasser du regard l'outre-mer des fonds marins, contrastant avec les dégradés de turquoise sur le lagon protégé par la barrière de corail. La houle qui s'était gonflée coiffait les vagues d'une épaisse couche d'écume blanche et complétait ainsi l'harmonie de couleurs. Au loin, la Désirade se devinait, surgissant des flots dans une brume bleutée. Emporté par mon propre souffle épique, je sentis s'échapper une larme devant tant de beauté. Débordement carnavalesque. Je fus soudain tiré de mon extase par un bruit sec et puissant. Le premier claquement qui retentit à mes oreilles crépita comme un coup de feu. Un deuxième suivit, puis un troisième dans la foulée. Interdite, je sursautai et m'immobilisai. À deux pas de moi, des adolescents et de très jeunes garçons, munis de longues cordes tressées ou de lanières de cuir terminées par des embouts métalliques, s'employaient à frapper le sol de toute leur force pour produire un maximum de bruit. Je fus impressionné par leur dextérité. Ils accomplissaient une sorte de ballet et évoluaient au beau milieu de la foule que leurs gestes menaçaient en permanence de lacérer. Cela commençait par un grand moulinet de bras qui envoyait la lanière de cuir cingler l'air, puis, d'un geste vif, il rabattait le manche en bois et l'embout de métal fouettait sauvagement le sol. Ils étaient déterminés, adroits et précis. Cependant, je ne fus que modérément rassuré lorsque l'un d'eux, un enfant de 5 ou 6 ans tout au plus, s'approcha dangereusement de moi. Il était concentré sur l'instrument qu'il avait en main, mais ne semblait pas se soucier des tendres mollets à portée desquels il le manipulait. Le coup partit. D'instinct, je me rétractais, crispé, anticipant la douleur cuisante. Mais le petit homme maîtrisait parfaitement l'exercice et le fouet cingla l'air et heurta le sol à un bon 30 centimètres de ma chair exposée. Une jeune femme, ayant surpris ma grimace et mon air étonné, éclata de rire. J'engageai la conversation avec elle pour essayer de comprendre ce que ces apprentis dompteurs venaient faire parmi les danseuses folkloriques. Elle rit de nouveau et m'expliqua qu'ils ne s'entraînaient pas pour un numéro de cirque, mais honoraient la mémoire des esclaves et évoquaient leurs souffrances en s'appropriant cet instrument de torture. Ils le détournaient de sa fonction initiale afin d'exorciser un passé colonial. Troublé par cet éclaircissement, et encore davantage par la mine enjouée de mon interlocutrice, qui me ramenait pourtant à la réalité d'un passé des plus sombres, je la remerciais, gênée, et veillais prudemment à prendre mes distances du fouettard en herbe. En partant, elle ajouta « Après les fouettards, viennent les groupes à peau et la musique d'Akio. » Groupe à peau, c'était la deuxième fois qu'on m'en parlait. Ça avait l'air d'être quelque chose d'important. Sans doute un groupe de musique créole entraînante. Hélas, Pas vraiment. À vrai dire, j'étais loin d'imaginer ce qui m'attendait. J'étais à peine remise de mes frayeurs qu'une plus grande encore me fut imposée, un effroi qui me fit blêmir et trembler. Un rire sardonique retentit soudain à deux doigts de mon oreille, et lorsque je me retournai d'un bond, ce fut pour me trouver face à face avec une vision d'horreur, un être abominable, un géant qui me dépassait de deux têtes et qui, les bras dressés au-dessus de moi, me menaçait d'un gourdin. Mon cœur bondit dans ma poitrine. Je sentis l'adrénaline parcourir tout mon corps comme un courant électrique. Mon estomac se contracta et des gouttelettes de transpiration apparurent sur le dos de mes mains alors même que celles-ci se glaçaient. Mon agresseur n'était pas seul. Un groupe d'individus grimaçants tout aussi effrayants m'encercla et m'entraîna dans une danse tribale au son de tambours frénétiques et de flûtes stridentes. Sur leur peau noire, de larges stries blanches avaient été peintes pour les transformer en autant de squelettes dégingandés. Coiffés de diadèmes surmontés de plumes noires moirées, le torse nu disparaissant derrière une avalanche de colliers de perles, de dents ou de coquillages, les reins ceints de feuilles de palmier, les pieds nus, ils tenaient d'une main une massue et de l'autre un bidon rempli d'encens d'où s'échappait une abondante fumée âcre. Agités de mouvements spasmodiques, ils tournoyaient en exécutant des contorsions disgracieuses. Des percussionnistes endiablés tapant sur des tambours recouverts de peaux de bêtes les emmenaient à une cadence effrénée. C'était donc cela les groupes à peau. Tour à tour, ils firent mine de se ruer sur moi et je fus subjugué par les visages peints en blanc, les yeux cerclés de noir, les rictus sinistres dessinés à l'emplacement de la bouche, les crânes décharnés. La fête Bon Enfant tournait au cauchemar. Était-ce d'ailleurs encore une fête ? Cela se voulait davantage l'expression de revendications identitaires. Des guerriers fous aux masques de mort étaient entrés en transe et menaçaient de m'emporter, de me jeter un sortilège. Une énergie considérable se dégageait de leur danse macabre. Ils étaient en communication avec l'esprit de leurs ancêtres esclaves et voulaient me faire expier une intrusion dérangeante et inopportune dans leur cérémonie mystique. En franchissant les barrières derrière lesquelles les spectateurs se tenaient sagement rangés, j'avais rompu le pacte. Je m'étais immiscé dans un monde interdit, un monde dans lequel je n'avais pas ma place. Pire encore, j'étais l'incarnation du mal qu'ils cherchaient à exorciser. Mes bons sentiments naïfs, ma soi-disant tolérance ou fausse bonne conscience étaient violemment rejetés comme autant de faux-semblants hypocrites. Je devais faire face aux horreurs du passé, être pleinement lucide. En un éclair, je revis les effroyables personnages qui m'avaient tant troublé au musée quelques jours auparavant, démons maléfiques issus d'un monde effroyable. Ils semblaient s'être réincarnés ici, pour venir hanter les vivants. Au moment où le cercle allait se refermer, je sentis mes jambes se dérober sous moi. Ma tête fut prise de vertige. Une immense fatigue s'empara de moi. Ma vision se troubla et je me mis à trembler de la tête aux pieds. L'odeur pénétrante de l'encens contribuait à mon malaise et de connivence avec mes tourmenteurs, le soleil m'asséna le coup fatal. Je me mis à vaciller. Au moment où j'allais chavirer, en un flash, je crus plonger de nouveau dans le gouffre qui avait bien failli m'avaler jadis, la tragédie qui avait brisé ma vie, brisé nos vies. Des années auparavant, cette nuit profonde de décembre, le crissement des pneus, le bruit sourd de l'impact, et puis, plus rien. Le néant, le trou noir, l'odeur du sang sur l'asphalte, le bonheur fracassé. J'avais cru pouvoir tenir le chagrin à distance grâce à Miranda. Mais il ressurgissait soudain du passé, avec la force, la précision, l'efficacité dévastatrice d'un boomerang. Je voulus crier un prénom, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Voyage au paradis. Légèrement déçus par cette petite déconvenue, mes amis proposèrent d'aller sans plus tarder voir le village de Désay, où nous attendait, me promirent-elles, une découverte touristique des plus intéressantes. Je fus plutôt surprise par cette annonce. Je ne me souvenais pas d'avoir lu quoi que ce soit de particulier dans mes brochures. Juste un pittoresque village au bord de l'eau, comme l'île en comptait de nombreux par ailleurs. Mes compagnes, pour leur part, frétillaient de joie. Elles chuchotaient entre elles, gloussaient de plaisir, tout en refusant obstinément de m'expliquer ce qui les mettait dans un tel état. J'étais intrigué par un tel comportement, je ne les savais pas aussi cachotières et puériles. Sur le court trajet, je sentis nettement une certaine excitation grandir parmi mes passagères. « On pourrait commencer par le port de pêche ?»«
Oui, bonne idée. De là, on a une très belle vue sur Grand'Anse. Et surtout, on verra le ponton d'où partent leurs bateaux. »
« Super ! Ensuite, on ira directement à l'église, monter sur le parvis. »«
Parfait. Le commissariat est juste à côté, sur la droite. On ne pourra pas le louper. Il paraît qu'ils ont aménagé un musée à l'intérieur. J'espère qu'on trouvera facilement le petit restaurant au mur rouge. On pourrait peut-être y dîner. Et il ne faut pas oublier le bar Catherine. Moi, je veux voir la lodge Coco et le hamac où l'inspecteur se repose. »
Cette dernière intervention fut celle de Julie, qui semblait plus impatiente encore que les autres de découvrir toutes ces merveilles touristiques. Un hamac, l'inspecteur, leur bateau. J'étais intrigué. De quoi pouvait-elle bien parler? Et elle semblait avoir une connaissance si précise d'un lieu où, sauf erreur de ma part, elle n'avait jamais mis les pieds. Les explications qui suivirent ne firent qu'ajouter un degré supplémentaire à ma stupéfaction. Elles étaient en pèlerinage, lancé sur les traces des protagonistes de « Meurtre au paradis », un feuilleton britannique dont la BBC venait de recommencer la diffusion. Ils en étaient à la 14e série. J'étais tombé sur un de leurs épisodes par hasard un jour où, désœuvré, je cherchais quelques programmes légers pour me distraire, mais j'avais rapidement changé de chaîne, ébahi que quelqu'un puisse s'intéresser à de telles niaiseries. Avec une moyenne de 8 épisodes par série, durant chacun environ une heure, cela faisait une quantité impressionnante d'intrigues vaguement ficelées, de rebondissements prévisibles, de courses-poursuites bricolées. Les personnages stéréotypés étaient joués par des acteurs en manque d'inspiration, dont le jeu consistait essentiellement à deviser, bras croisés ou mains dans les poches, tout en échangeant des regards entendus, soulignés par des mimiques simplistes, quand ils s'apprêtaient à résoudre une énigme ou, au contraire, en roulant des yeux ronds quand le mystère s'épaississait. Malgré leur air naïf, les forces de l'ordre faisaient toujours preuve d'une perspicacité époustouflante, de pouvoir de déduction inégalé pour résoudre les énigmes, ce qui ne devait pas être le cas de leur public. Le recours systématique aux explications détaillées pour décrire une scène à laquelle nous venions à peine d'assister me faisait soupçonner que l'audience cible de la production devait être les résidents Kakoshim d'une maison de retraite. Finalement, ce qui m'avait asséné le coup de grâce, c'était la piètre qualité du doublage. Les personnages n'avaient pas l'air convaincus par les répliques qu'ils échangeaient sur un ton où perçait soit une désinvolture manifeste, soit une préoccupation factice. Je me gardais bien de formuler la moindre critique, de laisser paraître la moindre trace de désapprobation, de lancer le moindre regard moqueur. Au contraire, avenante et manifestant même un intérêt à peine fin, je suivis les fans de la série à travers les rues de la petite bourgade qui, au demeurant, était vraiment charmante. Le cadre à lui seul valait largement le détour. Mais en outre, la réputation du feuilleton policier avait eu quelques retombées bénéfiques sur la commune. Ici, les espaces publics étaient impeccablement entretenus, la pelouse des jardins fraîchement tondue, les massifs de plantes tropicales fleuries en abondance, les cases créoles toutes pimpantes, toutes repeintes à neuf de couleurs vives et gaies. Pas une verrue disgracieuse, pas une seule ruine pour gâter le tableau. Pas un seul graffiti pour défigurer murs, portes et fenêtres dans ce parfait décor de carte postale. Ce condensé d'ambiance créole. Le bord de mer était particulièrement soigné et entretenu et cherchait à lui seul à symboliser toutes les Antilles. Devant la Lodge Coco, où avaient été tournées de nombreuses scènes, je ne pus m'empêcher de penser à la manne que représentait le programme télévisuel pour ses propriétaires. Ils en avaient fait une location de vacances, et avec la publicité que leur apportait la série, leur calendrier de réservation affichait complet toute l'année. Nous explorâmes consciencieusement tous les hauts lieux où se déroulaient les aventures de l'inspecteur et de ses acolytes. En arrivant devant le presbytère converti en commissariat fictif, je poussai néanmoins un discret « ouf » de soulagement lorsque Monique constata, un peu désappointée, que le musée était temporairement fermé. Pour la consoler, je lui désignai l'église située juste à côté et dont la porte était ouverte. Nous pénétrâmes dans une nef singulièrement lumineuse, aux murs peints en blanc, dans laquelle nous accueillit dès l'entrée une incroyable gerbe de fleurs locales, de celles que nous avions admirées au jardin botanique. Vision inattendue dans ce lieu de recueillement. Le bouquet flamboyait et semblait une torche vivante. Les tiges vigoureuses d'oiseaux de paradis projetaient bien haut leurs flammes rouges-orangées, mais ce qui capta principalement mon attention, ce fut d'énormes roses de porcelaine rouge écarlate, largement épanouies, qui tendaient vers nous leurs pétales ourlés de blanc. Elles étaient si parfaites que je les crus d'abord artificielles. Mais leur chair, bien pulpeuse, épaisse et vernissée, s'exposait sans pudeur et aspirait voracement la lumière. Fleurs du désir, plus ardentes, sensuelles et provocantes que leurs homonymes métropolitains, ces roses méritaient bien leur surnom anglais de torches de gingembre et ne faisaient aucun mystère de leur symbolique érotique. Ce bouquet tranchait nettement avec les brassées de fleurs de lys virginales qui ornaient traditionnellement les églises sur le vieux continent. Sa présence dans un lieu saint me sembla déplacée et inconvenante jusqu'à ce que j'aperçoive peinte sur le mur d'un autel consacré à Marie une fresque représentant les mêmes plantes à l'exubérance voluptueuse. Le voile bleu marial et la robe blanche, de même que les colombes qui accompagnaient la Vierge, s'accommodaient de la présence tumultueuse de cette flore luxuriante et charnelle. Décidément, la France d'outre-mer avait revisité les représentations chrétiennes et les avait acclimatées à sa manière. Le résultat était ensorcelant, et je souris en pensant que ce détail avait dû échapper à la vigilance des cinéastes de la série britannique. Le bouquet de fleurs tropicales de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Désay ruinait en un instant l'image aseptisée, sage et polissée qu'ils avaient voulu créer et réintroduisait la fougue et la vigueur des tropiques dans leur factice décor de cinéma. Escapade à haut risque. Ce fut à ce moment-là que je pris conscience de la pertinence des conseils que je n'avais pas suivis. De gros nuages sombres s'étaient massés en contrebas, formant une corolle autour du sommet et dérobant à mes regards tout le paysage situé en contrebas. Une mer cotonneuse, blanche et grise s'était substituée à l'outre-mer et à l'azur de l'océan. Toujours plus conquérante, cette houle vaporeuse se gonflait et montait à l'assaut du sommet. En un quart d'heure tout au plus, il fut enveloppé à son tour et je disparus dans les brumes avec lui. La veste légère que j'avais enfilée s'avéra aussitôt bien trop mince pour me protéger du froid cinglant qui s'abattit sans crier gare. Après avoir transpiré à grosses gouttes pour arriver jusqu'ici, tout à coup je grelottais et mon t-shirt mouillé de sueur ne faisait qu'accentuer l'inconfort. Mais ce ne fut pas la seule complication. Soudain, plus de visibilité, plus de repères, et une descente qui promettait d'être périlleuse et semée d'embûches sur un sol inégal, désormais humide et glissant. Le chemin était certes balisé, mais encore fallait-il retrouver les panneaux confisqués par le brouillard. S'éloigner du tracé, n'était-ce que de quelques pas, c'était courir le risque d'errer toute une nuit au milieu d'amas rocheux, de se fouler une cheville, voire de se casser une jambe, ou de faire une chute mortelle sur une pente accidentée. Pour couronner le tout, les vapeurs sulfureuses, prisonnières de la brume, ne parvenaient plus à s'élever vers le ciel et rampaient au sol, où elles répandaient un air vicié, acide et toxique. Cela piquait à la gorge, dans le nez, dans les yeux. Combien de temps allait-il me falloir pour sortir de ce pétrin où m'avait entraîné un entêtement stupide? Allais-je seulement réussir à retrouver la voie par laquelle j'étais arrivé? Je crus me souvenir qu'elle était sur ma gauche. Mais une tentative malheureuse me convainquit rapidement que je faisais fausse route. Sous mes pas, le sol plongeait brutalement et la puissante odeur d'œufs pourris m'informa que j'étais au bord d'une fissure. Et si je succombais aux émanations toxiques? Si je mourais là, sur place, empoisonné, asphyxié par ces vapeurs sulfureuses? Condamné par ma propre témérité,
pour avoir voulu prouver que j'étais valeureuse. On retrouverait d'ici quelques jours mon corps inanimé. Quelle fin idiote! Et s'il n'y avait que le risque d'étouffement, je me mis à songer avec effroi au magma que j'avais sous les pieds. La soufrière n'était pas un volcan éteint. Sous une frêle croûte de lave figée bouillonnait une marmite infernale, prête à exploser. Vous venez d'entendre quelques extraits de « Vanille fraise » de Roland de Moreau aux éditions Maya, que vous pouvez vous procurer à la FNAC, sur Amazon ou sur le site de l'éditeur. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez me recommander des textes d'autrices et d'auteurs locaux et contemporains en contactant RLP par mail à l'adresse radiolibresenperigord@gmail.com ou par téléphone au 05 53 46 80 24 où vous pourrez laisser un message en précisant le nom de l'émission Le Coin Lecture. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.